Moshe Rabbeinu ne figure pas dans cette paracha. Vous peut-être savez. D'une certaine manière, Moshe Rabbeinu a été... La phrase de Moshe Rabbeinu s'est réalisée, si on peut dire, contre lui. Mais, paradoxalement, dans une paracha où le nom de Moshe n'est pas cité, on a l'impression que Moshe joue un rôle encore plus grand qu'ailleurs. Parce que les premiers mots, c'est « Ve'ata tetsave et bnei Israël, vikru elecha shemen zaitzach, tatit la maor, la alot ner tamid. » Ve'ata tetsave. Le « metsave », c'est celui qui donne les ordres. Jusqu'à parashat tetsave, le metzavé pour le clan Israël, Avraham Avinu, il est metzavé de Beto, il donne des ordres dans sa maison. Bon, ça c'est un balabait qui donne des ordres à ses enfants ou à sa famille. Mais être le metzavé pour le clan Israël, a priori, c'est toujours Hachem. Et maintenant, on a l'impression qu'Hachem dit à Moshe, maintenant c'est toi qui vas ordonner. Ordonne. Pourquoi c'est pas marqué Vaïdaber Hachem, il ne voulait pas dire le nom de Moshe. Vaïdaber Elav, ou je ne sais pas quoi, en faisant référence. Ou Vaïdaber Hachem. Le béné Israël, je ne sais pas quoi, Vikru, Shemen Zaitzach. Non, il faut qu'ils prennent de l'huile d'olive pure. C'est toi que tu ordonnes au béné Israël de prendre et d'amener vers toi cette huile d'olive pure qui va servir à la menorah, qui va servir à illuminer le fameux Ner Tamid. Et cette menorah, elle sera placée par Aaron et ses enfants, donc par les Kohanim, elle sera placée de l'autre côté du rideau. Le rideau, c'est le rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim, le saint du Saint des Saints. Dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron, il y a la boîte dans laquelle se trouvent les louchot, les tables brisées, les brisures, les tables que Moshe Rabbeinu a reçues, les deuxièmes, et le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il dépasse un peu, bon, peu importe. Ça, c'est ce qui est du côté Kodesh HaKodashim. Il y a un rideau, et puis... Côté sud, il y a la menorah, et côté nord, il y a le shulchan, il y a la table, sur laquelle il y a les fameux pains de proposition. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la chokhma, la menorah, ça représente la sagesse, et de l'autre côté, il y a le shulchan qui représente la parnassa, qui représente la richesse. Et c'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un prie, on prie direction, nous par exemple, ici on prie direction d'Yerushalayim, d'abord, c'est quelque chose comme sud-sud-est ou un truc comme ça, quelque chose de ce genre-là. Et si on veut prier pour la chokhma, il faut aller pencher un petit peu du côté nord, du côté sud, pardon, pour la chokhma, et un peu du côté nord si on veut prier pour la parnassa. Bon, c'est toujours dans la même direction, direction Yerushalayim, mais un peu côté sud pour la chokhma, si on veut demander à Hachem qui nous aide, tachonel adam dat, etc. Et quand on veut parler de la parnassa, on se tourne un petit peu vers la droite, vers le nord. Alors, c'est aussi important de voir que ces fameuses directions cardinales, qui sont des directions... elles ont une importance. Il y a une réalité, si vous voulez, sur Terre, il y a une réalité de la notion de nord, de sud, d'est et d'ouest. C'est pas à considérer comme une pure convention, si vous voulez, qui n'aurait pas de réalité. C'est pas pour rien que la menorah est au sud et que le shulchan est au nord. Ça fait partie des caractéristiques, si vous voulez, et que la shrina est à l'ouest. Côté ouest, Bon, ça fait partie des caractéristiques, si on peut parler comme ça, de la structure du monde. Bon. Alors, Aaron va, il va nettoyer la menorah, Aaron et ses descendants, nettoyer la menorah tous les soirs, rallumer, en mettant dans tous les godets, dans, sur toutes les branches, la même quantité de combustible, d'huile, d'olive pure, première, super première pression. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on appelle le nerf Maharavi, le nerf ouest, c'est-à-dire celui du milieu, celui-là, il va brûler beaucoup plus longtemps, même qu'il a la même quantité de carburant, il va brûler beaucoup plus longtemps que les autres. Et on dit que ce nerf Maharavi, c'est un témoignage de la présence d'Hachem dans le monde. Souvent, le matin, il fallait, enfin, avant de nettoyer les nerfs pour les rallumer pour la journée d'après, il fallait souvent commencer par éteindre le... Il fallait commencer par éteindre le nerf Maharavi, le nettoyer et le remplir de nouveau avec la même quantité de combustible que les autres, et d'huile donc, et le rallumer. Tellement il brûlait beaucoup plus longtemps. C'est un S permanent. Ensuite, c'est toujours Veata, et toi, dans le verset Aleph du Passouk Kafret, 28.1. De nouveau, Veata, et toi, Akrevelecha et Aaron Achicha, rapproche de toi Aaron et ses fils, tu auras, qui sont sélectionnés en quelque sorte au sein des Bnei Israël, le Chahanoli, pour me servir, dit Hachem, et c'est un peu surprenant, on dit d'abord Aaron et ses fils, pour me servir. Puis ensuite, on dit Aaron, Nadav, Aviou, Elazar, Utamar, venez Aaron. Ce serait attendu qu'on dise là, on aurait dit Aaron, et puis Ved Banav, et on cite les enfants, et après on termine la phrase. Mais là, on cite les enfants, on cite la structure Aaron et ses fils à la fin du verset. Et tu vas les rapprocher pour être à mon service, et va sita bigde kodesh le Aaron achicha le chovadot tifaret. Et tu vas faire pour Aaron des vêtements Kodesh, des vêtements donc séparés des vêtements de la semaine, des vêtements en dehors du Mishkan, des vêtements qui seront le Kavod et le Tiferet. Ils seront des vêtements qui lui donneront du poids et de la splendeur. Il faut qu'il soit splendide. Pour la splendeur, il faut en jeter, semble-t-il, quand on est Kohen Gadol, avec les vêtements. Le Kohen Gadol, il va avoir 8 vêtements, et le Kohanim standard, ils vont avoir 4 vêtements. Ces vêtements, c'est tous les vêtements qu'ils ont. C'est-à-dire, il fait souvent très très froid pour les Kohanim en hiver. Ils sont pieds nus, etc. Il n'y a pas un super chauffage. Ils ont très froid, mais ils ne pouvaient pas mettre un petit damar sur leurs vêtements. C'est interdit, les vêtements doivent être al-besaran. Les vêtements devaient être au contact direct de la peau. Et s'il y avait eu quelque chose, c'est un din de chatzitsa, c'est un din de quelque chose qui empêche le contact. C'est une des raisons pour lesquelles ils doivent être nu-pieds, parce qu'ils doivent être au contact direct du sol du Beth Amikdash. Du Mishkan, puis du Beth Amikdash. Au point que vous savez qu'il y avait... Dans la procédure de la sota, à un moment donné, on doit prélever de la poussière du Beth Amikdash, qu'on ajoute à l'eau que la sota va boire. Donc il y avait une des dalles du Beth Amikdash qui était décellée, qui était simplement posée, qu'on levait pour prendre la poussière du Beth Amikdash, la terre qui était du Beth Amikdash. C'est pas qu'on balayait le Beth Amikdash et on prenait cette poussière-là, on prenait sous la dalle en question. Et du coup, comme cette dalle n'est pas scellée, un Kohen qui aurait fait la avoda en mettant ses pieds sur cette dalle-là, c'est une chatzitsa, parce qu'il n'est pas sur le sol. Ce qui est scellé sur le sol et répété, c'est battel au sol, donc c'est comme c'est sur le sol. Mais cette dalle-là n'étant pas scellée, celui qui repose, qui mettait un pied sur cette dalle-là, s'il était en train de faire une des avodotes, un des services qui nécessitent Donc, bah, ici, je sais pas, il transportait le dame ou il faisait du zrika ou quelque chose. S'il avait mis ses pieds, un seul de ses pieds d'ailleurs, sur cette dalle-là, la avoda n'était pas bonne parce qu'il n'était pas au contact direct du sol du Beth Amikdash. Et la Gemara, elle envisage beaucoup de choses. Entre autres, elle envisage tout le problème des pansements. Un Kohen qui s'est blessé, est-ce qu'il peut, il peut faire la avoda avec des gants? Qu'est-ce qu'il va faire? Et s'il a un pansement, comment on fait, etc. Donc, en fait, ça fait Hatzitsa pratiquement tout le temps, donc il ne peut pas faire la avoda. Et la Gemara, elle va même jusqu'à envisager la situation où il y aurait un courant d'air qui fait que ça soulèverait le vêtement. L'air s'engouffrerait dans le vêtement du Kohen, entre sa chair, sa peau et le vêtement. Et donc le vêtement ne serait pas vraiment au contact direct de la chair. La Gemara, elle discute. Ça va être bon, mais on voit très bien que ça aussi, c'est peut-être une khatsitsa, puisque le vêtement, il doit être al-Bessaram, et là, il n'est pas al-Bessaram, il est sur une couche d'air qui, elle, sépare, en quelque sorte, puisqu'elle n'a pas lieu d'être. On sait très bien que ce n'est pas parfait, l'adhésion. Le corps humain, il devait avoir des vêtements qui collaient. Il devait aussi avoir des vêtements, par exemple, qui étaient coupés à l'exacte mesure de leur corps. Un Kohen qui avait des vêtements qui traînaient par terre ou des vêtements qui étaient trop courts, était réputé ne pas avoir de vêtements, et donc ne pas être Kohen quand il faisait la avoda. Donc ça fait partie des choses, et si vous vous souvenez peut-être, ce sont des choses qu'on a reprochées au fils d'Aaron quand on demande pour quelle avérote Nadav et Avihu ont-ils fait. Alors une des avérotes qu'on dit, c'est qu'ils avaient des vêtements qui n'étaient pas adéquats, qui n'avaient pas la bonne longueur. Parce qu'on les accuse de tout, on envisage tout, parce que bon, on ne va pas maintenant parler de ça, on en parlera en son temps. Et ensuite, bon, alors voilà, tu vas faire ces vêtements. Alors comment il va faire? C'est Moshe Rabbeinu qui va tirer l'aiguille, je veux dire. Va t'adaber, toi, tu vas parler, El Kol Chachmelev, à tous ceux qui ont cette sagesse du cœur, donc qui vont être inspirés, Asher Miletiv Ruach Chochma, que j'ai, dit Hachem, rempli d'un esprit de sagesse. Et ça, le Ramban et d'autres, tout le monde s'étonne. D'où est-ce qu'ils ont appris ça? C'est pas en fabriquant des briques en Égypte pendant 210 ans qu'ils ont appris des techniques extraordinaires de broderie, de tissage, de la laine sur les animaux. Bref, et ensuite on enlevait la peau et on avait tout, toute la fraîcheur du poil qui était encore vivant quand on l'a tissé, etc. Où ils ont appris ça, c'est ça. Je les ai remplis de Ruach Chochma, d'un esprit de sagesse, sagesse technique aussi. Va souhait Bigdé Aaron, le Kacho, et ils vont faire les vêtements. Ils feront donc les vêtements d'Aaron pour le sanctifier. Donc on a l'impression ici, si vous entendez bien, que c'est les vêtements qui vont le sanctifier. N'est-ce pas? Va sous. Vous avez une traduction, comment ils ont traduit ça? Oui, c'est ça, le consacré, sanctifié donc. Pour qu'il puisse me servir, en fait, comme Cohen. Donc, vous voyez bien, les vêtements font le Cohen, quoi. Contrairement à ce qu'on dit sur d'autres. Ve'ele abgadim asher yasu, et voici les vêtements qu'ils feront. Alors, bon, je ne vais pas maintenant entrer dans l'énumération des vêtements. Il y aura ce qui va être important, c'est il va y avoir de l'or, de la laine et du lin dans les vêtements. Il va y avoir du chatnez dans les vêtements des Kohanim, mais on appliquera à ce moment-là la halakha de Asé Doché Lo Ta'asé. La mitzvah de la avoda va repousser le Lo Ta'asé de chatnez. D'accord? Ça veut dire qu'ils auront le droit, pendant leur avoda, d'avoir une ceinture dans laquelle il y a du chatnez. Il y a un mélange lin et laine dans les ceintures. Évidemment, dès qu'ils ont fini la avoda, ils n'ont plus le droit de porter ces vêtements, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le assez, il n'y a pas la mitzvah assez. Donc, quand ils ont fini, il faut qu'ils sortent, évidemment, qu'ils se déshabillent, qu'ils mettent des habits de ville, etc. Mais pendant la avoda, ils ont une ceinture qui est enfin un vêtement, peu importe lequel, ils ont un vêtement qui est chatnez, donc qui est un vêtement qu'on n'a pas le droit de porter, hein, normalement. Donc c'est aussi intéressant de voir, comme si on n'avait pas pu leur demander, ordonner qu'on fasse des vêtements qui n'avaient pas de problème de chatnez. C'est-à-dire, visiblement, c'était nécessaire d'en passer par du chatnez et d'utiliser le assez d'oré l'ota assez pour le permettre pendant la avoda. Alors, les couleurs, c'est important, les couleurs. Les couleurs, il n'y a que deux couleurs, il y a trois couleurs, mais qui en fait sont deux couleurs. C'est trélet, donc ce fameux bleu azur. Et ensuite, argaman et tolaat shani, c'est donc la pourpre et l'écarlate. Donc deux rouges, deux types de rouges. Il y a du bleu et du rouge. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre couleur en tant que couleur. Ce qui va se passer, c'est il va y avoir du blanc dans la robe qu'ils avaient. La robe, elle était en 72 nuances de blanc. 72 nuances. Le blanc, le crème, le machin cassé, etc. Pas cassé, je ne sais pas. Bref, 72 nuances de blanc. Et il va y avoir sur les vêtements du Kohen, il va y avoir une décoration qui est en clochettes, qui sont en or, et en grenade. Il y a une clochette, grenade, clochette, grenade. Et la grenade, c'est une grenade en laine, c'est des grenades en laine dans ces trois couleurs. Des bleus, des trélettes, de argaman et du tolaat shani, donc de ces couleurs-là. Donc c'est important de savoir ces couleurs. Alors évidemment, le bleu en question, c'est trélettes. Bon, trélettes, c'est une espèce de... C'est un bleu qui invite à la dérive des couleurs, c'est-à-dire à la... Ça invite à rêver, n'est-ce pas ? Puisqu'on dit le trélet, c'est un bleu qui ressemble à la mer, qui ressemble au ciel, qui ressemble au trône divin. Donc c'est une ouverture sur l'infini, ce bleu. Alors que les rouges sont plutôt les couleurs de la justice, du sang, de certaines rigueurs, évidemment. Ensuite, ils vont faire le Ephod, Zahav, Trelet, Argaman, Tolaat Shani, Shesh Moshzar, Maaseh Choshev. Donc, le Ephod sur lequel il va y avoir les fameuses pierres qui vont permettre de consulter. Ça s'appelle Urim Vetumim. Alors, durant cette période-là, jusqu'au temps de Yoshua, on va consulter ces Urim Vetumim. C'est-à-dire que quand on envisagera, par exemple, de devoir faire la guerre, ou bien d'agrandir les limites d'une ville, ou des choses comme ça, on va consulter, et la réponse viendra avec ces pierres sur lesquelles il y a des lettres. Et le Gaon de Vilna rapporte un exemple de ces lettres. Il rapporte que quand Hana, la mère de Shmuel, était dans la suite du Mishkan, on n'était pas encore au Beth Amikdash, bien sûr, et le Kohen Gadol, c'était Eli avec un Aïn, hein. C'est pas le diminutif de Eliaou, c'est Eli avec un Aïn. Aïn Lamediud. Et Elia Cohen, il a vu Hana, et il a vu une bonne femme qui lui paraissait suspecte. Alors il a interrogé Urim Vetumim pour savoir qu'est-ce que je fais avec cette femme. Et la réponse, c'était quatre lettres. Il y avait le Shin, il y avait le Resh, il y avait le He et le Kaf. Donc la réponse n'est pas des mots, la réponse c'est des lettres. Évidemment, quand vous recevez des lettres, vous devez essayer de former les mots. Alors, lui, il a formé le mot, probablement, il y a plusieurs mots possibles, mais il a choisi un mot qui lui a probablement été inspiré par ce qu'il voyait. Lui, il a pensé que Hana, qui était en train de murmurer, etc., il s'est dit, cette femme-là, elle est sourde. Elle est ivre. Elle parle comme un ivre, comme un ivrogne, comme une ivrogne. Donc les lettres, ça fait Shikura. Shin, Kaf, Resh, E. Shikura. Donc il a interprété la chose en disant, alors du coup il a apostrophé Hana, il lui a dit, va plus couver ton vin ailleurs, etc. Il ne lui est pas venu à l'idée que ces mêmes lettres peuvent vouloir dire Kshera. Cette femme-là est Kachère. Elle est bien. Faut pas dire. C'est une femme bien. Et c'est comme ça qu'il aurait dû l'interpréter. Qu'on a été Kshera, Kacher, mais c'est les mêmes lettres. Donc on voit très bien que dans la réponse, même quand Hachem donne une réponse par le biais des Urim Vutumim, il reste encore un travail d'interprétation à faire. Et un travail d'interprétation qui évidemment va être subjectif. Comme on le voit ici, il a vu une femme qui se comportait comme une souris, parce qu'il faut préciser que jusqu'à Hana, quand on priait, on criait le nom d'Hachem. Va yikra b'shem Hachem. On criait le nom d'Hachem. Des fois, toute la prière, quand on dit Avraham Avinu l'a construit un hôtel, va yikra b'shem Hachem, il a crié le nom d'Hachem. C'est une façon de faire connaître le nom d'Hachem. Il n'y avait peut-être rien d'autre. Il ne demandait rien. Il publiait le nom d'Hachem. Comme l'autre, ils écrivent « J'écris ton nom sur les murs, etc. » D'accord ? Ben, lui, au lieu de... Il n'écrivait pas « Liberté », il écrivait... l'idée, c'est qu'on criait le nom d'Hachem. Et Hana, elle a inventé quelque chose. Elle a inventé une autre façon de prier à voix basse. De prier comme dans une forme d'intimité avec Hachem. Pas besoin de crier, il entend. T'as pas besoin de crier, parle doucement. Et la façon dont Hana a prié, c'est la façon dont nous prions encore aujourd'hui. Donc en réalité, Hana, avant d'accoucher de Shmuel, Shmuel c'est quand même un prophète qui ressemble à Moshe et à Aaron, comme on dit dans Tehilim, le Tehilim qu'on dit vendredi soir, Kabbalat Shabbat, on dit Moshe. Ve'aaron bechohanav, ushmuel bekorishmo, korim el Hashem ve'hu ya'aneh. Le Gaon il explique, Moshe, Aaron et Shmuel, le dénominateur commun de ces trois, c'est que ils sont tous les appelés par Hashem. Moshe, Hashem, Moshe, Moshe, Aaron, Hashem l'appelle, il dit le Shem Hashem, il y a un rapport avec le Shem Hashem, qu'ils le disent ou qu'ils l'entendent. Et Shmuel, il est appelé. Hana, quand elle a demandé un enfant, elle a dit à Hashem, donne-moi un enfant et je te le donnerai. Je le consacrerai. Et donc, dès qu'il a été capable de se séparer de sa mère l'a envoyé, il est devenu l'assistant, enfin, il a été éduqué par Eli HaKohen. Et il est devenu prophète, il est quand même le prophète qui a oint Shaoul, le premier roi d'Israël, et qui a oint David, et qui a désigné, donc, qui a son corps défendant d'ailleurs, a accepté de désigner le premier roi d'Israël, Shaoul. Les Israélites disent, on veut un roi comme tout le monde. Alors il leur a fait valoir que ce n'était pas leur intérêt. Tu veux quand même, alors tu veux. C'est, voilà. Donc avant ça, elle a donc accouché de la façon dont le clan d'Israël, depuis lors, et encore aujourd'hui, prie. C'est génial, quoi. Cette femme-là, elle a accouché de la façon dont nous prions la Amida. C'est comme ça qu'on prie. On a une intimité avec Hachem, on prie comme Hana a prié. Et c'est son invention. Parce que si ça avait été connu, on peut prier comme ça, elle ne serait pas trompée. Il y a une femme qui prie. Alors elle, une femme qui prie, elle peut sangloter, elle peut. Les mots peuvent se collisionner quand quelqu'un est très ému, etc. Et voilà que. Voilà, elle. Personne n'avait jamais prié comme ça. C'est, je suis toujours très impressionné, je veux dire. C'est. Une femme qui était certaine. Une femme énormément souffert. Une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant très très longtemps. Et qui d'ailleurs n'a eu un enfant que. Après, elle a eu d'autres enfants. Mais cet enfant-là, elle ne l'a eu qu'après avoir annoncé à Hachem, écoute, donne-le-moi, je te le redonne. Quelque part. Donc, en d'autres termes, fais que je sois une mère. Une fois que je serai une mère, l'enfant, il est pour toi. Je ne veux pas l'enfant pour moi. Je veux le mettre à ton service. Je veux te donner ce qui m'est le plus cher. Elle met Shmuel au service. Et il y a des midrashim qui disent que Shmuel, de ce point de vue-là, par rapport au Klal, il était mieux que Moshe Rabbeinu. Parce qu'on dit de Moshe Rabbeinu que lui, il siégeait du matin au soir, le soir au matin, il siégeait au milieu du camp d'Ebné Israël, mais il fallait aller chez Moshe. Tandis que Shmuel était itinérant. C'est Shmuel, il allait chez les gens. Donc on dit, il faisait encore plus pour le clan que Moshe. Il jugeait, il était juge, alors que il allait là où il allait partout. On avait besoin de lui.
Au niveau temporel, on est toujours dans Mishkan.
C'est pas vrai. C'est une forme de Mishkan. Il y a eu deux endroits. Il y a eu un endroit par exemple qui s'appelle Shiloh, où il y avait une très grande tente, en quelque sorte, mais qui était encore beaucoup plus grande que le Mishkan. Le Mishkan, c'est un tout petit machin, quand vous regardez les dimensions. Je vous dis, le Aaron, par exemple, on s'imagine, le Aaron à Kodesh. Si on est Mahmir sur... il faisait 1m50 sur 90, le Aaron. C'est rien du tout, quoi. C'est tout petit. Et le Mishkan qui fait 50 amot, c'est-à-dire 25 mètres, c'est des trucs très très petits, des dimensions rikiki. Au sol, c'est pas beaucoup plus que au sol que ce bâtiment-là. Quoi.
Imaginez, c'est ce sefer qui était dans le Chine, il avait été
écrit par Moshe.
Par Moshe. Mais c'était comment ça
avait... À la fin de sa vie. Fin de sa vie, on a mis le Sefer Torah. Quand Moshe a voulu donner à la tribu de Lévi, je vous l'ai souvent raconté, que les autres ont fait pousser des hauts cris, ils voulaient. Du coup, Moshe Rabbeinu a écrit 13 farim. Un pour chaque tribu, plus celui qu'il a mis dans le Kodesh HaKodashim. Alors, Aaron, en quelque sorte, il va porter sur son pectoral, hein, sur ses épaules, qui attache cette espèce de tablier qu'il avait, il y a partout des pierres qui sont gravées, sur lesquelles sont gravés les noms des tribus. Donc, quelque part, il est là avec les noms des tribus. Donc il représente le clan Israël, y compris dans sa structure tribale. Comme toujours, je dis, on voit nulle part qu'on n'ait jamais essayé de supprimer cette structure tribale. Ce qui me dérangeait quand j'étais plus jeune, avec l'âge, j'ai compris que c'était nécessaire, que ça fait partie de la diversité du clan Israël. Il faut que le clan Israël ait cette diversité. On n'a pas voulu faire un espèce de melting pot où tout allait se dissoudre et qu'on aurait une indifférence. Non, ils ont des identités spécifiques. Chaque tribu a son identité. Et du coup, ça veut dire qu'on a à travailler sur l'altérité, à l'intérieur du clan Israël. Il n'y a pas simplement à travailler sur l'altérité entre le Israël et les Umot HaOlam, et les peuples, mais aussi à l'intérieur du clan Israël, puisque les tribus étaient des tribus très différentes. Il y avait des tribus qui avaient des... On a l'impression que C'était, ils n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Non, vous voulez, quand les 10 tribus ont été exilées, lorsqu'ils ont perdu la guerre, le royaume d'Israël a perdu la guerre contre la Syrie, alors on a exilé, mais comme on exile, on n'exile jamais tout le monde. D'accord, il y a toujours des gens qui échappent à ça, d'une part, et deuxièmement, il y avait très certainement des gens qui, pour des raisons de business, par exemple, se trouvaient en voyage, éventuellement même, ils étaient en voyage en Yehuda ou en Binyamin ou en Hatsi Shevet Amnaché, dans le royaume de Juda. Et dès qu'il suffisait qu'il y ait un ou deux de chaque tribu, on a perpétué les tribus à l'intérieur de ceux qui ont été avec les gens des tribus d'Yehuda et Binyamin. Donc on ne peut pas du tout être sûr qu'on est obligatoirement de l'une ou l'autre des tribus. C'est plus vraisemblable que... Pourquoi ? Intuitivement, je préférerais qu'il reste dans le clan d'Israël des restes de toutes les tribus. Ça serait plus satisfaisant, me semble-t-il, qu'est-ce que ça veut dire que le clan d'Israël va se retrouver amputé de l'essentiel de ses tribus. Dix des tribus auraient disparu et il resterait deux tribus plus les Kohanim Levim, quoi. Peut-être qu'eux sont aussi inclus. Ça veut dire qu'il y a des midrashim qui disent que les tribus sont au-delà d'un certain fleuve, Sambaton ou un truc comme ça. Mais bon, c'est sûrement une allégorie ou je ne sais pas ce que c'est. On prenait un petit peu. Mais c'est très possible qu'il y ait, d'abord, d'une part, on peut imaginer qu'il y ait des gens de ces tribus qui ont été effectivement exilés, qui se sont retrouvés un peu partout. On dit que. Nos copains talibans, ils disent qu'ils sont les descendants de la tribu de Yosef. Il y a en Afrique des gens qui disent qu'ils sont la tribu de Dan.
Les talibans.
Non, les talibans, ils disent qu'ils sont de Yosef. En Afrique, et ils ont plein de choses, ils s'appellent souvent des noms sans Yosef, et ils ont des trucs.
Les talibans
d'Afghanistan. Oui. Certains disent les Pashtuns, je ne sais pas.
C'est des Arabes.
Non, ces gens-là ne sont pas des Arabes. Mais
les talibans sont des Arabes.
Je ne crois pas. Je crois que c'est des Afghans. Je
ne suis
pas sûr que ce soit des Arabes, ces gens-là.
C'est des musulmans.
Oui, musulmans et arabes, ce n'est pas la même chose. Pays de musulmans, c'est l'Indonésie. Ils ne sont pas arabes.
Que des musulmans, reconnaissent Joseph.
Oui, pourquoi pas. C'est dans le Coran, il y a une big récupération. Toutes sortes de choses. Il y a des formations à l'appui. En plus, c'est pas vrai, c'est pas dit que c'est vrai, mais ils ont une tradition comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous de cette tribu-là, mais enfin, comme les gens se mariaient plus ou moins entre eux, je ne sais pas si c'est tous les talibans ou tous les pashtuns, je ne sais pas exactement comment c'est. Je ne connais pas les tribus là-bas, mais enfin, eux, ils se revendiquent, paraît-il, de ça. Et il y a les gens en Inde qui disent qu'ils sont de Ménaché, je crois. Oui. C'est ce qu'ils disent. C'est pas impossible. Pourquoi pas? De toute manière, ça se clarifiera à la fin des temps. On verra. On ne sait pas quand, mais ça se clarifiera. Donc il y aura un rappel permanent des tribus dans toute la avoda en permanence. Aaron, il est en permanence dans le Beth Amikdash. Il y a toujours un rappel de toutes les tribus. Alors, Shlishi, dans le pasuk Lamed Aleph du chapitre Kafret, Vasita et Meil, Haefod, Klil Tchelet. Donc là-bas, celui-là, il va être en Tchelet, entièrement. Et il y aura un bord avec des. Qui sera tissé, et là-bas sur le bord, on fera justement, le verset Lamed Gimel, il dit « Rimunet Tchelet v'Argaman v'Tolad Shani » les fameuses grenades en Tchelet, en Argaman et en Tolad Shani, sur le bord, tout autour, et il y aura aussi des clochettes en or, parmi les grenades. Espèce de bordure, grenade, clochette, je sais pas si c'était grenade, clochette, ou bien si c'était grenade, clochette, je sais pas comment, ça je sais pas. Pardon, le
sur des dessins, ça représente
l'éternel. Oui, bon, peut-être qu'il y a peut-être une source, je sais pas. Peut-être. Oui, il fallait qu'on sache que le Kohen arrivait, le Kohen Gadol arrivait. Alors, dans Revi, dans le Perek Kaftet, on dit « Veze hadavar asher ta'aseh lahem lekadem lecha'en li, lekach par echad ben bakar, ve'elim shnaim tmimim. Velechem matzot, de matzot, vechalot matzot, belulot bashemen, urekike matzot meshukhim bashemen, solet chitim ta'aseh otam. » C'est-à-dire qu'en fait, toutes les offrandes végétales étaient toutes matzot, sans chametz, sauf deux, sauf les pains qu'on apportait à Shavuot, on apportait deux pains qui eux étaient chametz pour montrer que quand on a la Torah, on peut se permettre de manger du chametz, chametz qu'on prend, les etzara, etc. Et qu'on apporte un korban toda. On apportait moitié-moitié, enfin, des pains en chametz et des pains matzot. Mais essentiellement, les menachot, les offrandes végétales, elles sont matzot, pas de chametz. On ne veut pas de richesse, on ne voulait pas un pain riche. Alors, pour bien montrer que les kohanim, qui vont manger ces pains-là, les kohanim, ils ne doivent pas mettre l'accent sur la richesse personnelle. C'est bien que les Kohanim ressentent qu'ils sont dépendants du clan Israël qui leur donne leur subsistance, en fait. Ils ont besoin de cette espèce de rappel à l'ordre, parce que évidemment, quand on est Kohen, et qu'on est au service d'Hachem, on est dans le Beth Amikdash, on peut avoir la grosse tête, évidemment. Ça veut dire de penser qu'on est mieux que les autres. Alors, rappeler sans arrêt qu'ils ne sont que les représentants des autres aussi. Je veux dire, ils ne sont pas... Bien que pour eux-mêmes, ils avaient des règles... Par exemple, l'Agma, elle rapporte que les Kohanim, ils n'étaient pas d'accord que leur femme, qu'on fasse des kiddushin à leur femme avec une pruta. Eux, ils voulaient qu'on donne quelque chose de plus important. Nous, on est Kohanim, donc nos filles, quand elles se marient, on ne peut pas leur donner une prota, c'est-à-dire la pièce la plus petite, puisque ce n'est pas du tout une évaluation de la personne. Mais comme si, mais nous, on ne veut rien avoir à faire avec les petites pièces en cuivre. Chez nous, ce qui circule chez nous, c'est de l'argent ou de l'or, mais pas du cuivre. Alors, le pasouk dit, par exemple, dans le pasouk d'Alet de ce chapitre-là, c'est marqué « Ve'et Aaron ve'et banav takriv el pesach o el moed ve'rachatsa otam bamaim » Le pasouk dit ici que on va approcher Aaron et ses fils comme s'ils étaient un korban. Tu vas les présenter. Avant de les habiller, il a fallu les tremper dans le mikvé, donc comme des kelim, comme des objets, quoi, quelque part. Et ensuite, on va les habiller, on va habiller le Kohen Gadol avec des vêtements extraordinaires, on va le loindre, on va lui faire quasiment une couronne. Et puis, il va y avoir l'inauguration de ce Mishkan. Et il va y avoir, c'est le 23 Adar, je crois, quelque chose comme ça, c'est bientôt, l'inauguration du Mishkan. Et pendant il va y avoir 8 jours d'inauguration. Pendant ces 8 jours, celui qui va jouer le rôle du Kohen Gadol, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui va être le grand prêtre à ce moment-là. Mais lui, par exemple, il n'aura pas de vêtements. Les vêtements d'apparat qu'on a fait pour Aaron, ils sont faits pour Aaron. Lui, Moshe Rabbeinu, va faire la avoda avec des lavanes, avec des vêtements blancs. Que du lin. Des vêtements blancs, entièrement blancs. Donc, il joue le rôle du Kohen Gadol, mais pas complètement. Quoi. Dans les Milouim, c'est lui qui va fonctionner comme tel. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, ayant fait le travail, va pouvoir ensuite expliquer à son frère certaines choses qui doivent être faites et que Moshe Rabbeinu a apprises, comme il avait une ligne directe avec Hachem. Lui, il a appris dans le Mishkan, probablement, comment il fallait faire certaines choses, certaines avoda, et ensuite, il l'a enseigné à son frère. Son frère ne pouvait pas le savoir tout seul, en fait. Alors, ici, on le prescrit aussi de faire les fameuses barres qui vont servir au transport, qui sont des barres qui servent au transport et qui, quand on campait, donc on montait le Mishkan, on enlevait les barres du Shulchan, etc., du Misbeach, on les enlevait, sauf les barres du Aaron. Les barres du Aaron, elles restaient en permanence dans les anneaux, même quand on campait. Seulement, on les faisait glisser de telle sorte que les barres du Aaron poussent le rideau en deux endroits, des pointes comme ça, et que vu de l'autre côté, c'était comme les pointes de deux seins. Il y avait cette idée du Aaron qui est d'une certaine manière aussi un nourricier pour le clan d'Israël spirituel, quoi. Donc, il y avait cette idée pour montrer bien que d'ordinaire, dans les rapports entre Hachem et le clan d'Israël soit le féminin et approche beaucoup le masculin, mais ici le Aaron pointe, enfin il se présente vu de l'extérieur comme si donc le Aaron qui est la partie la plus sainte, si on peut parler du Mishkan, certains disent que tout le Mishkan c'est jamais qu'une espèce d'enveloppe pour le Aaron, lui maintenant il va donner à croire, enfin pas à croire, mais c'est à ça que ça fait penser quoi. Ces deux pointes là, on a l'impression que c'est les deux pointes d'une, ne sont pas très éloignées de l'autre. Bon, c'est un peu trop large pour être le corps d'une femme, mais ça fait référence à ça. Ça pointe vers les seins d'une femme sous un tissu, quoi, sous le parochet. On va s'arrêter là.